Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Ce qui excite le plus sa haine, c'est la fécondité de la femme. C'est son angle d'attaque préféré. Voluptueusement enclos dans sa solitude infernale, il ne peut accepter la dilection d'un amour conjugal sans ruer dans les brancards. Et son agression décuple devant le fruit de l'union conjugale en la présence d'un bébé. Bonjour Marie-Yvonne Gasse.
Bonjour.
Alors, vous reconnaissez un peu cette écriture? Ça vous rappelle une certaine écriture?
Nous sommes devant, oui, j'ai voulu montrer que nous sommes devant un combat titanesque, qui existe depuis la nuit des temps.
Depuis le début.
Depuis le début.
De la création.
Mais qui prend des proportions inédites. Je crois que c'est Bernanos qui disait que le diable avance masqué et c'est sa plus grande victoire. Il faut bien reconnaître que derrière tout ça, il y a une emprise diabolique absolument monstrueuse, drapée derrière des techniques hyper sophistiquées et qui sont admirées par les techniciens, par le monde moderne, voilà. Mais le diable, qui est une créature éminemment spirituelle, sans corps, qui est un intellectuel, était le plus grand des intellectuels. Quand il voit la création de Adam et Ève, il y a un certain mépris pour ces petits hommes qui ont des corps, donc qui sont dans le devenir, dans la pesanteur de la matière, on pourrait dire. Mais ils ont quelque chose que n'a pas le diable. C'est-à-dire qu'ils sont capables non seulement d'un amour réciproque, alors que l'ange est drapé dans sa solitude, et surtout, ils donnent la vie, ce qui les apparente à Dieu. Ils ont cette noblesse divine. Et le diable n'a pas cette possibilité d'avoir une descendance, ce qui excite sa rage. Donc c'est évidemment à la fécondité qu'il va s'en prendre. Et sa rage, non seulement attaque la femme, mais attaque tout l'univers physique. Donc on sait que jusqu'à la fin des temps, il n'aura de cesse que d'avoir tout détruit. Donc, et celle qui... c'est la Vierge, on le voit dans la Genèse 3 et dans l'Apocalypse, le combat est entre la Vierge et le diable. Donc nous sommes dans une lutte sans merci, dont nous connaissons la victoire qui est acquise par le Christ, mais qui demande une héroïcité, une sainteté, une droiture de cœur et d'esprit et une grande fermeté.
Alors j'ai bien envie de lire encore, et c'est important, un extrait de ce petit essai, « Et Dieu créa sa femme ». Donc c'est au hasard des routes du XXIe siècle. Vous écrivez « Dieu part à la rencontre des filles d'Ève et découvre l'ampleur du désastre. À peine sont-elles reconnaissables, ces femmes modernes, affranchies de tout et droguées d'adrénaline, grimées et affairées, suffisantes et intrigantes, le regard dur, le visage sévère, l'attitude hautaine. Qu'as-tu fait là ?» leur demande Dieu délicatement. Mais sa question paternelle se heurte à une fin de non-recevoir. Et je poursuis, c'est vous qui écrivez. Hein. Avortement, contraception, stérilisation. Dieu ne reconnaît plus sa créature chérie, celle qu'il a tirée de la côte d'Adam avec tant de munitions pour la lui donner comme douce compagne. En offrant la maternité à la femme, il ne pouvait rien lui offrir de plus précieux. Etc, etc. Ça dit l'ampleur d'une bataille qui touche l'humanité entière, Marie-Yvonne Gasse.
Donc je disais que la femme est pivot social, où elle fait basculer d'un côté ou de l'autre. Là, quand vous reprenez les descriptions que j'ai faites de la femme moderne, en contrepartie, je me souviens, dans quelques pages auparavant, je dis combien la modestie, qui n'est plus un mot très à la mode, était la marque des très bonnes éducations dans le temps. Et je pense que c'est aussi la condition de préserver sa liberté. Quand on se montre, on est bien plus facilement préempté que si on est dans sa réserve et si on est, comme dit Jean-Paul II, sentinelle de l'invisible. Mais pour ça, il faut une distance, il ne faut pas être sur le devant de la scène. Il faut être dans une sorte de mirador intérieur pour observer. Et je dis à un autre endroit du livre que derrière les grands destins d'hommes, il y a toujours ces femmes qui justement sont sur la réserve, mais ont cette sagesse parce qu'elles voient et elles perçoivent et elles ont le discernement. il faut une complémentarité entre celui qui est sur le champ de bataille et celui qui observe pour savoir comment mener la bataille. Et je crois que la femme, quand on dit qu'elle est sentinelle de l'invisible, elle doit avoir cette distance, cette réserve, cette modestie qui garde sa liberté, bien sûr, et honore sa féminité.
Alors bon, vous parlez aussi de cette liberté, toujours dans votre livre, page 94, vous décrivez aussi que ces femmes modernes aujourd'hui, elles peuvent crier haut et fort, vive l'indépendance, pas de contraintes d'engagement, mais une liberté totale et idéale, sans douleur ni obstacle, hein, en fait. Est-ce que la femme moderne d'aujourd'hui ne se définit pas comme cette femme qui désire tant cette liberté, son autonomie, pouvant planifier sur son calendrier à tel moment le désir d'un enfant ou non? Là, on décrit, on est dans des temps, est-ce que ce sont des temps derniers au fond, voyant un peu l'évolution si rapide et la domination aussi de la femme sur le sexe opposé, le masculin, on en est où au fond dans ces fins de temps? Si la femme perd son identité, sa première vocation et son mystère profond.
Alors, le Christ a répondu aux apôtres que pas même lui, seul le Père connaissait leur dernière. Mais j'ai entendu dire, je ne sais pas, je ne pourrais plus citer où, mais que Benoît XVI parlait des derniers temps, dans les derniers temps. Donc, ça semble effectivement, j'ai l'habitude de dire qu'on voit l'apocalypse se réaliser sous nos yeux à une vitesse croissante. Et ce qui me touche, c'est que non seulement la femme est abîmée, mais quelque chose qu'on a peut-être moins vu dans les temps antérieurs, c'est comment on vole l'enfance aux enfants, ce qui est le plus pur et bafoué et piétiné. Il n'y a plus d'espace d'innocence. Et donc l'homme est hors sol, il n'a plus d'espace, de repère pour se reconnaître. J'ai oublié un peu votre question, là, c'était... oui, la femme moderne, elle a envie de devenir, de se comparer, d'être comme les hommes, alors qu'elle a ce trésor intérieur. Mais j'insiste sur la modestie, qui est le gage de sa vraie noblesse, finalement, et de sa vie intérieure. Elle a un laboratoire en elle-même. Elle a tout ce qu'il faut pour être un peu le trône de la sagesse, pour reprendre une expression de Jean-Paul II à la fin de son encyclique « Foi et raison ». C'est un pouvoir énorme. Et quand elle y renonce, ben oui, elle devient comme elle le veut, c'est-à-dire un homme comme les hommes. Et elle se nivelle par le bas, finalement. Non pas que les hommes... Elle a peut-être oublié, parce que j'insiste beaucoup au début du livre, Adam est créé, d'après le récit biblique, à partir de la glaise. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui relève que la femme, elle est issue d'une matière déjà organique, donc un peu plus noble. Si elle avait cette conscience de cela, d'abord elle resterait modeste et elle aurait suffisamment confiance. Si elle avait cette conscience, elle aurait confiance dans sa nature. Elle a une nature qu'elle développe après, mais... Voilà, et elle vient du lieu du cœur, enfin de la côte, comme le Christ vient, comme l'Église vient de la côte du Christ.
On se rend bien compte aussi qu'il y a ce terrible déchaînement en combat entre, au fond, et vous l'écrivez, entre mâle et femelle, rien ne va plus. Vous écrivez aussi que, et vous rappelez, et c'est vous déclarez, et c'est les temps aussi de lecture de notre monde aujourd'hui, c'est la guerre des sexes qui est déclarée. Maintenant, c'est la revanche du sexe faible, vous l'écrivez sur le sexe fort, ce qui est une réalité. Vous décrivez une réalité aujourd'hui.
Donc c'est une sorte...
On va droit dans le mur, l'homme et la femme, dans leur vocation spécifique.
Il y a une opposition qui est une... Ça s'appelle un terme un petit peu technique, une dialectique, qu'on retrouve... Je reviens encore à la Genèse. Il y a déjà une dialectique quand le démon oppose le commandement de Dieu à l'interprétation qu'il en fait. Et on voit que la guerre des... Enfin, il y a une dialectique qui se retrouve, par exemple, dans le marxisme. Et aujourd'hui, il y a une dialectique systématique partout. L'homme contre la femme, le blanc contre le noir, l'hétéro contre l'homo. C'est vraiment c'est une explosion. Et donc, on imagine que jusqu'à la fin des temps, ça risque d'être dans ce genre de choses. C'est pour ça que la femme, je n'ai pas encore parlé de ça, elle a dans sa nature une propension intellectuelle au réalisme. Alors là aussi, il faudrait que, quand on renonce à ce trésor, par sa disposition à la maternité, elle a un rapport plus concret au corps. Donc normalement, elle a une appétence plus intellectuelle, plus proche de ce qui est, alors que l'homme ira plus facilement dans l'abstraction, dans les systèmes. Et quand elle fait des études supérieures d'ingénieur, d'études de commerce, etc., je ne dis pas qu'elle s'abîme, mais elle risque d'abîmer son intelligence. Son intelligence qui est faite peut-être pour, dans le réel, savoir discerner le vrai du beau, le bon du mauvais, l'essentiel de l'accidentel. Et c'est pour ça que Raïssa Maritain, ça m'a beaucoup intéressée.
Alors vous l'aimez beaucoup, elle apparaît hein, plusieurs fois.
Hein. Cette femme de Jacques Maritain, oui. Qui était un grand philosophe, qui justement est revenue au réel par l'étude de saint Thomas d'Aquin. Donc Raïssa dit, si la femme a des dispositions intellectuelles, qu'elle s'engage dans la philosophie et surtout dans la métaphysique de l'être. Et je rappelle que Jean-Paul II avait dit dans Foi et Raison qu'il fallait retrouver une vraie anthropologie à partir de la métaphysique de l'être. Alors, appel aux candidates.
Alors oui, le message est lancé et puis on peut vous citer aussi Saint Jean-Paul II, vous citez aussi Benoît XVI, vous citez Raïssa Maritain, que vous aimez particulièrement, je crois. Je vous invite à vous retrouver dès demain, toujours à la même heure. Et nous enregistrons ici, dans ce sanctuaire de Lourdes, pas très loin de la grotte Massabielle, où se tenait l'Immaculée Conception. Marie-Yvonne Gasse, auteure de ce livre aux éditions DMM, des éditions peu connues. Ce livre s'intitule « De créa la femme », avec une préface de Jacques Trémollet de Villet et postfacée de Véronique Lévy, qui est assez connue. Je vous remercie et je vous dis à demain.